ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 5 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à une nouvelle édition de Ça vaut le détour. En ce mardi 5 avril, une nouvelle édition qui débute. Plusieurs invités en studio aujourd'hui. On va parler de différents sujets. Ça va aller dans toutes les directions. Comme à l'habitude, je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_M pour nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur l'actualité. Du 6 au 8 avril, le prochain aura lieu à Montréal le 41e congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. Le congrès accueillera des chercheurs et professionnels du Canada, de la France, la Belgique, les Pays-Bas et des États-Unis. L'objectif, prévenir les échecs et ce qui signifie la mise en place d'approches particulières très tôt dans la scolarisation auprès des élèves à risque. On en parle avec le directeur scientifique du congrès, M. Alain Desrochers. Il sera avec nous à 12h45. Dans le cadre de la chronique mensuelle de la CIS, l'Association du Québec pour l'inclusion sociale, je reçois en studio Mme Sophie Tétrault-Martel, responsable de l'organisation communautaire à Parrainage civique Montréal. L'organisme accompagne les personnes ayant une déficience intellectuelle dans leur intégration et leur participation sociale en les jumelant avec un parrain ou une marraine bénévole. Dans notre émission du 29 mars dernier, on a parlé avec Tommy Théberge de Canadialogue pour nous parler de leurs produits qui favorisent une participation active et autonome à la vie sociale des personnes malvoyantes et non-voyantes. Aujourd'hui, il sera dans nos studios pour nous parler de Guidino, un GPS pour se guider dans les endroits publics. Mais tout d'abord, on amorce ce midi notre série d'entrevues et de reportages En route vers Rio, où on vous propose des rencontres avec des acteurs dans le monde sportif et des athlètes de haut niveau. Tout ça pour entretenir la fièvre des 15e Jeux paralympiques d'été qui auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en septembre 2016. Pour notre première entrevue, je reçois Mme Émilie Bouchard-Labonté, rédactrice chez Sportcom. Bonjour!
Bonjour!
Bienvenue dans nos studios.
Bien, merci, ça fait plaisir d'être ici.
Tout d'abord, comment est né Sportcom et quelle est sa mission?
Sportcom est né il y a près de 15 ans maintenant, si je compte bien, dans l'espoir de donner une fenêtre supplémentaire aux athlètes olympiques et paralympiques, les athlètes québécois sur la scène internationale. Alors, notre mission première, c'est vraiment de faire refléter les performances d'athlètes québécois qui pratiquent un sport olympique ou paralympique sur la scène internationale dans des Coupes du monde, des championnats du monde, plein de tournois internationaux.
Donc, pas nécessairement besoin que ce soit une fois aux 4 ans pour les Jeux d'été ou une fois aux 4 ans pour les Jeux d'hiver. C'est vraiment tout type de compétition de haut niveau.
12 mois par année, 7 jours sur 7.
OK, on surveille ça. Est-ce que le sport paralympique a fait partie de votre mission dès les débuts?
Oui, dès le début, ça a pris une place importante dans la mission de Sportcom, puisqu'on veut faire rayonner ces athlètes québécois qui, généralement, avec les sports professionnels, compétitionnent un peu dans les médias traditionnels pour avoir une place. Donc, autant les sports olympiques que les sports paralympiques avaient besoin de cette fenêtre supplémentaire-là. Donc, on offre du contenu diversifié, original. On s'assure de faire le plus souvent possible des entrevues avec les athlètes qui sont sur place en compétition, mm-hmm. de sortir de ce contenu-là le plus instantané possible. Dès le départ, ça a été autant le sport olympique que le sport paralympique qui a été important pour nous.
Vous êtes en fait comme une sorte d'agence de presse.
Tout à fait. C'est vraiment un travail d'agence de presse qu'on fait à ce niveau-là. Mais on offre toutes sortes de services de communication diversifiés dans le domaine du sport. Et notamment, on va être au défi sportif à la fin du mois d'avril pour faire la rédaction de contenu de leurs activités au niveau sportif. Au fil des années, là, il y a plein de services de communication qu'on offre aussi à côté de la rédaction sportive.
À part votre propre site web, où on peut retrouver justement en continu pratiquement les nouvelles sportives des athlètes que vous suivez, où est-ce que vous diffusez les autres nouvelles?
C'est sûr que notre site web est la plateforme la plus importante pour ne rien manquer. Les gens, n'importe qui peut s'abonner aussi à nos listes de courriels. Donc, si vous êtes intéressé par un sport en particulier ou plusieurs sports, ou bien une région, ou bien un athlète en particulier, c'est possible de s'inscrire à nos listes. Donc, Ça, c'est du contenu qui peut arriver directement par courriel. Mais il ne faut pas oublier aussi nos plateformes sur les réseaux sociaux, autant Facebook ou Twitter, où qu'on est là, on est dans le contenu encore plus diversifié ou bien être plus, surtout avec Twitter, le plus instantané possible, collé aux résultats de la compétition. Donc, c'est des outils qu'on utilise beaucoup. Et on a maintenant une chaîne YouTube. On essaie maintenant là, de faire la vidéo ou bien on distribue aussi des extraits sonores aussi à certains moments aussi. Avec des commentaires d'athlètes qui sont en compétition.
Est-ce que ces commentaires sonores ou ces extraits vidéo, on les retrouve, par exemple, dans d'autres services de nouvelles, dans d'autres médias? Est-ce que les médias font appel à votre contenu pour l'intégrer dans leur téléjournal, par exemple?
C'est notre espoir le plus grand, ce contenu-là. Il est gratuit, donc on espère qu'il va être utilisé le plus possible pour le plus de médias possible. C'est sûr que nous, à la base, on sait plus quand nos extraits se retrouvent dans les téléjournaux ou bien dans certains bulletins, puisque nous, on est la source de ce contenu-là.
Exact.
Mais aux yeux des spectateurs ou des téléspectateurs ou des auditeurs, ça, des fois, ça paraît pas nécessairement que ça vient de notre contenu. Mais oui, j'ai un exemple comme ça, mais surtout les émissions de radio dans les régions qui n'ont pas nécessairement accès à nos athlètes, bien, peuvent nous demander du contenu audio pour... bonifier un peu leurs nouvelles.
Dans le cas des athlètes qui pratiquent des sports paralympiques, vous êtes parmi les seuls à les suivre de manière régulière. Donc, pas seulement lorsque c'est le moment de grandes compétitions comme ce qui s'en vient cette année en 2016, mais c'est au continu.
En continu, des championnats du monde, de tous les sports, en Coupe du monde, chaque tournoi international, on essaie on contacte les athlètes, on crée notre calendrier pour être sûr de ne pas les manquer. On contacte les athlètes pour ensuite être sûr qu'une fois sur place, on va pouvoir communiquer avec eux. Donc oui, peu importe, c'est jamais aux 4 ans, c'est vraiment le plus collé possible à leur actualité quand ils sont sur la scène internationale.
Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un de votre équipe qui est présent dans ces compétitions ou parfois ça va se faire plutôt au téléphone, les contacts ou une couverture à distance?
On aimerait avoir tous les moyens du monde et les suivre sur place, ces athlètes-là, mais malheureusement, c'est pas possible. Évidemment, quand ils sont au Québec, ou bien à proximité, on essaie de se rendre sur place pour pouvoir aller chercher du contenu vidéo ou bien du contenu, en fait, d'être sur place, ça va toujours aller mieux. Mais sinon, moi, j'aurai la chance là, d'aller à Rio pour les Jeux paralympiques, donc j'ai bien hâte. C'est dans presque 5 mois, jour pour jour, là, alors on se prépare très fort pour cet événement.
Oui, justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce qu'on se prépare pour la couverture d'un événement majeur comme celui-là? On dirait que la planète arrête de tourner lorsque les Jeux olympiques arrivent. Par contre, on peut souligner qu'il y a la couverture, elle est moins grande pour ce qui est des Jeux paralympiques. Donc, c'est là, vous, où est-ce que, pour les athlètes québécois, vous êtes vraiment... votre rôle est essentiel. Comment on se prépare à ça?
Oui, c'est un rôle assez important. Et moi, j'aime ça parce que les athlètes vont être encore plus accessibles que s'il y avait 15, 20 médias qui leur couraient après. Donc, je me sens privilégiée de pouvoir partager ce moment-là. J'ai pu avoir l'expérience. Je suis allée à Londres aussi pour les Jeux paralympiques.
C'est vrai, oui.
C'était la première fois où j'allais à des grands Jeux. Je pouvais participer à ça Et comment se préparer? Bon, au Brésil, je suis jamais allée. J'ai bien hâte d'y aller. J'ai bien hâte d'être témoin de toutes les performances que les athlètes québécois vont y réaliser. La façon dont je me prépare présentement, c'est que je suis très alerte aux qualifications pour les Jeux paralympiques qui se passent présentement. Présentement, là, aujourd'hui même, les essais paralympiques en paranatation sont commencés dans la région de Toronto. Donc, on suit ça avec beaucoup d'attention. Essais paralympiques, mais aussi olympiques en natation. Alors, on suit beaucoup de ça d'attention cette semaine. Le week-end dernier, il y avait un tournoi de basketball en fauteuil roulant pour l'équipe féminine canadienne dans la région de Toronto aussi. On sait que l'équipe qui va faire les Jeux va être annoncée bientôt. Donc, on suit ça avec attention pour être sûr d'avoir le plus de contenu sur les athlètes, le plus d'informations possibles sur les athlètes québécois qui vont participer à ces grands Jeux-là. Donc, c'est la façon dont je me prépare présentement, c'est d'essayer de connaître le plus possible les athlètes qui y seront pour, après ça, pouvoir écrire les histoires le mieux possible et décrire un peu le mieux possible leur expérience et leur réalisation une fois rendus là-bas.
Tout à fait, parce que vous allez dresser des portraits de ces athlètes qui vont participer aux Jeux. Justement, vous parlez de qualification en ce moment. Quel sport est-ce qu'on peut surveiller nous, en attendant l'annonce officielle de qui sera de Équipe Canada, finalement, en fait, il n'y a pas d'Équipe Québec spécifiquement, mais de l'Équipe Canada aux Paralympiques. Qu'est-ce qu'on peut surveiller, là? C'est quoi les qualifications qui s'en viennent?
Bon, présentement, il y a comme je disais, il y a les essais en paranatation, c'est des essais canadiens. Il va y avoir 11 hommes et 11 femmes qui vont faire partie de l'équipe. Certainement qu'il va y avoir des Québécois parmi eux, dont la jeune sensation Aurélie Rivard, qui détruit tout sur son passage présentement, et Benoît Huot, qui serait à ses cinquièmes Jeux paralympiques. Alors, pour l'instant, c'est eux qui sont à surveiller présentement, en effet. Sinon, c'est sûr que les équipes en basket en fauteuil roulant, hommes et femmes, sont qualifiées pour les Jeux de Rio. Ça s'est décidé lors des Jeux parapanaméricains qu'il y a eu à Toronto l'an dernier. Alors, l'annonce des athlètes qui feront partie de cette équipe-là devrait arriver dans le prochain mois, probablement. Il y a l'équipe de rugby en fauteuil roulant aussi qui est qualifiée pour les Jeux de Rio. Encore là, on a 2-3 Québécois qui préfèrent partie de l'équipe. Ça va être des nominations qui devraient être annoncées prochainement, c'est sûr. En paracyclisme, c'est toujours en cours. Les athlètes ont eu les championnats du monde de paracyclisme en surpiste il y a environ 2-3 semaines. Et on a un duo en tandem qui est médaillé de bronze à une épreuve. Alors, probablement qu'une annonce surviendra aussi bientôt à ce sujet-là. En boccia, il faut surveiller aussi l'annonce parce que ça aussi, c'est pas mal déterminé. C'était au 31 mars, donc c'est tout récent.
Ouais,
au 31 mars, c'était le classement mondial qui comptait. Alors, Marco Di Paltrow, médaillé à Londres en double BC4, devrait être sans doute de retour avec Alison Levine aussi dans la même catégorie. Troisième Québécois devrait faire partie de l'équipe, Éric Bussière. Donc, ça risque d'être annoncé officiellement aussi prochainement. Donc, c'est ce qui me vient en tête là, pour l'instant.
Ça fait déjà pas mal d'athlètes à mettre dans notre pool si on veut les suivre puis suivre leur performance. En terminant, Émilie Bouchard, La Bonté, vous avez parlé en début d'entrevue de votre présence au défi sportif Altergo,
oui.
Qui arrive à la fin du mois d'avril. Parlez-nous de l'importance de cet événement-là dans le parcours des athlètes.
On a la chance d'en parler avec certains athlètes sur lesquels on écrit des portraits pour le défi sportif. Et souvent, c'est le début. C'est le début de leur aventure qui va les mener jusqu'aux Jeux paralympiques de Rio. Ça va être leur premier contact avec la compétition, puisqu'il y a plusieurs volets dans le défi sportif, un volet scolaire, un volet provincial, national, jusqu'à un volet international. Donc, le défi sportif peut leur permettre toute une progression dès les débuts du sport et jusqu'à l'élite de leur sport. Et ensuite, peut-être une qualification pour les Jeux paralympiques de Rio. Alison Levine a commencé comme ça en boccia, Marc-Claude Molnar, qui devrait probablement faire les Jeux paralympiques aussi à Rio, qui est médaillé aux Jeux paralympiques de Londres. Son premier contact avec le paracyclisme, ça a été au défi. Souvent, les athlètes, ils vont pour faire des tests, essayer des nouveaux sports et ensuite se découvrent une nouvelle passion pour ce sport-là et poursuivre, ils progressent. Alors, c'est toujours une belle semaine au calendrier de Sportcom.
Mais ça va être une semaine chargée aussi, j'en doute pas. Merci beaucoup, Émilie Bouchard-Labonté, rédactrice chez Sportcom. On sent vraiment très bien votre passion pour le sport. Merci beaucoup de nous ramener ces beaux portraits, ces beaux événements. Et on va assurément suivre cette couverture, donc en route vers Rio, les prochains Jeux paralympiques d'été. 15e édition, donc en 2016. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, bien Sportcom QC ou bien www.sportcom.qc.ca. Mes inquiétudes se condensent. Sous les stroboscopes, la musique nourrit la méfiance. Mais j'ai tenu parole, je t'attends à l'aéroport. L'angoisse est multicolore. Et la tour de contrôle relaie ton indifférent.
l'avion se pose de Thierry Bruyère, tiré de son album du même nom, une parution de 2016. Toujours de belles découvertes de la scène francophone à Ça vaut le détour. Dans notre émission du 29 mars, la semaine dernière, on avait parlé avec Tommy Théberge de Canadialogue. La firme fait partie d'un groupe international qui s'emploie à donner tous les moyens possibles pour favoriser une participation active et autonome à la vie sociale des personnes malvoyantes et non-voyantes. Son produit phare, le plus connu dont on avait discuté, est entre autres le logiciel Jazz qui traduit en mots ce qui est affiché à l'écran. Par contre, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre système auquel on va bientôt s'attaquer sur le marché canadien, Guidino, un GPS pour se guider dans les endroits publics. J'accueille en studio avec moi M. Tommy Théberge, directeur des opérations et conseiller en accessibilité chez Canadialogue. Bonjour.
Bonjour, madame.
Donc, plongeons dans le sujet. Mm-hmm. Guidino est un produit qui est déjà disponible en Europe et que vous souhaitez implanter au Canada.
Tout à fait. Guidino, c'est le fruit de 2 ans de recherche-développement du côté européen de la compagnie Medeo Group. Donc, Medeo Group s'est attaché à vouloir développer une solution inclusive qui permet aux personnes de circuler, de naviguer, de s'orienter facilement dans des bâtiments d'envergure.
Donc, c'est comme un GPS intérieur.
Tout à fait.
Et si on comprend, maintenant le GPS dans les voitures est assez, et même sur les téléphones mobiles, est assez répandu. Par contre, c'est surtout utilisé sur les longues distances. Quand on parle de lieux intérieurs, comment est-ce que ce logiciel-là est transformé?
Bien, en fait, comme vous l'avez dit, c'est un système GPS. On peut faire le référencement à celui utilisé dans une voiture, puisque l'idée, c'est qu'à l'intérieur d'un bâtiment, on soit capable de circuler à partir de points de référence ou de points d'intérêt. Donc, par exemple, je veux, dans un centre commercial, je veux aller à la boutique X. Bien, à ce moment-là, on peut tout simplement, à partir de l'application mobile, cibler l'endroit et Guidino va vous amener pas à pas jusqu'au commerce souhaité ou à l'endroit que vous recherchez.
On vient de prendre un exemple d'un centre commercial où il y a différentes boutiques. Quel d'autres types d'endroits est-ce qu'on peut utiliser cette technologie?
Guidino, c'est un système qui peut être utilisé partout où le public a accès. Donc, ça peut aller de l'hôtel de ville aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux musées. En fait, l'idée, c'est que les personnes puissent facilement se déplacer à l'intérieur d'un bâtiment avec ce système-là. Donc, n'importe quel grand espace public peut utiliser en intérieur le système Guidino.
Wow! Pour que ça fonctionne, il faut tout d'abord que le lieu soit répertorié dans l'appareil. Ou comment on fait pour travailler cette collaboration-là avec le lieu? Il faut une carte intérieure. Comment ça fonctionne?
En fait, c'est fort simple. Donc, avec le propriétaire du bâtiment, donc on va établir une collaboration. Ce dernier va nous fournir les plans en format soit PDF ou AutoCAD. Donc, à partir de ces plans-là, nous, on va documenter chacun des endroits, des événements, des points d'intérêt, des points de référence pour pouvoir le charger à l'intérieur de l'application. Et nous allons aussi, bon, évidemment, adapter tout ce qui est l'intérieur du bâtiment avec des balises Bluetooth, puisque Guidino, c'est un système qui est indépendant des autres structures à l'intérieur d'un bâtiment, quoique il peut se joindre aussi à d'autres infrastructures, mais c'est un système indépendant qui utilise justement la technologie Bluetooth.
Donc, ça fonctionne avec le Wi-Fi?
Peut fonctionner avec ou sans le Wi-Fi. C'est okay. Vraiment la force de Guidino. Par exemple, si on est dans un métro, dans les métros souterrains, donc la plupart du temps, Internet ne fonctionne pas bien, le Wi-Fi ne fonctionne pas bien. Donc, à ce moment-là, si l'application utilisait uniquement le Wi-Fi, elle serait non disponible. Mm-hmm. Alors que, à ce moment-là, en balisant le territoire, l'espace avec les plans, puis avec aussi les balises Bluetooth, bien, indépendamment du Wi-Fi, le système va fonctionner. Donc, c'est une partie très forte du système, donc qui met aussi en valeur toute la dimension sécurité.
Tout à fait, la sécurité, l'autonomie aussi des utilisateurs. Est-ce que Guidino s'adresse seulement aux personnes non-voyantes?
Au départ, Guidino, c'est l'idée a émergé de trouver une solution pour que les personnes non-voyantes en cécité totale puissent circuler facilement à l'intérieur d'un bâtiment. Mais on a rapidement étendu la solution à l'ensemble des autres limitations physiques. Donc, par exemple, les personnes qui ont des limitations moteurs peuvent facilement utiliser Guidino. Donc, on va parler un petit peu de profilage tout à l'heure, mais selon le profil que la personne va inscrire, à ce moment-là, Guidino va toujours lui offrir le meilleur trajet le plus rapide. Puis je dirais que Guidino, en fait, si ça a été développé à la base pour les personnes qui ont des limitations, c'est une solution universelle. N'importe qui entre dans un bâtiment a besoin de s'y repérer. Donc, n'importe quelle personne peut télécharger l'application et facilement trouver l'aile F112 dans un hôpital, par exemple.
Ça peut être, je pense que ça pourrait être utile vraiment, effectivement, à toute la population. On parle de profil d'utilisateur. Quelle notion est importante de... Qu'est-ce que Guidino a besoin, finalement, pour bien s'adapter aux besoins des usagers?
La force de Guidino aussi, bien, c'est toute la question de l'identification du profil de la personne. Donc, au moment où on télécharge Guidino à l'entrée du bâtiment, donc l'application va nous poser un certain nombre de questions. Donc, est-ce que vous voulez utiliser les escaliers? Est-ce que vous préférez utiliser les rampes d'accès? Donc, vous allez donner aussi de l'information sur votre condition. Est-ce que je suis une personne qui n'aime pas... les longues distances, c'est difficile pour moi. Est-ce que je suis une personne en cécité? Donc, tout ça va nous permettre d'avoir de l'information sur la personne, puis de lui offrir toujours le meilleur trajet et le plus rapide en même temps. Mm-hmm. Au niveau sécurité, donc, la personne peut accepter d'être suivie aussi. Donc, ça, c'est un des éléments clés de Guidino. Donc, à l'intérieur du bâtiment, par exemple, si on est dans une situation d'urgence puis on doit évacuer le bâtiment, si la personne elle, a accepté d'être suivie par l'équipe de sécurité, bien, cette dernière est capable de repérer la personne dans le bâtiment. Donc, je suis capable de savoir, ah, j'ai une personne qui est en fauteuil roulant dans l'aile G, je dois absolument aller l'assister pour l'évacuation. Mm-hmm. Et inversement, donc, si je suis une personne qui rencontre un problème dans le bâtiment, j'ai une fonction sur mon application qui me permet d'alerter la sécurité. Puis à ce moment-là, l'équipe va mettre en place les mesures pour aller assister la personne.
C'est vraiment très, très bien pensé sur tous les niveaux. Justement, j'ai une question peut-être un peu plus technique sur cet aspect de sécurité. Est-ce que lorsqu'on entre, par exemple, dans un lieu, qu'on pense à un aéroport ou une université, c'est comme des lieux très, très vastes, est-ce que il y a un petit blip-blip qui arrive à l'équipe de sécurité où je dois moi-même envoyer un message pour dire que je suis présente?
Il faut tout simplement que l'application soit lancée.
Okay.
Donc, le Bluetooth activé dans le bâtiment. Puis à ce moment-là, effectivement, la personne, on peut accepter d'être suivie. Ce qui est intéressant aussi, inversement, le propriétaire du bâtiment peut envoyer de l'information à la personne aussi. Par exemple, si je suis dans un centre commercial, je suis une personne qui est en cécité, je ne sais pas moi qu'il y a 50% de rabais d'affiché dans la boutique X à ce moment-là, l'application peut envoyer aussi une référence, une forme de géomarketing aussi, ou encore la porte d'embarquement a changé de place. Donc, à ce moment-là aussi, on peut coupler l'information qui est disponible dans l'aéroport, par exemple, avec l'application Guidino pour pouvoir s'y retrouver.
Oui, être au courant des informations de dernière minute. Oui. M. Théberge, il nous reste quelques minutes. Oui. Quelles sont les prochaines étapes pour développer le système au Canada? Je rappelle qu'il est disponible en Europe. C'est un concept italien, d'où son nom. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec nous?
Guidino, c'est un développement français. Qui s'est inspiré d'un nom italien. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, les prochaines étapes, la société Medeo souhaite venir ici au Canada développer une version québécoise de Guidino. Donc, on a la volonté, et d'où mon rôle et mon implication au sein du groupe Medeo Group, d'arriver avec un modèle québécois, un modèle canadien. Actuellement, on est en recherche de sites, de partenaires qui seraient intéressés à travailler, à faire l'implantation du système Guidino. Donc, ça peut être des étendues vastes comme une étendue qui est plus petite. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des nouveaux partenaires. On a aussi, on travaille actuellement aussi avec un partenaire à Québec, donc pour faire l'implantation d'un premier site que les personnes pourront venir aussi essayer, mais on est au tout début. Puis on souhaite ardemment que les villes ou les musées ou les centres hospitaliers ou en fait tous les endroits, les centres commerciaux, les endroits où le public fréquente ces endroits-là, qu'ils soient handicapés ou non, puissent bénéficier de la technologie Guidino.
En terminant, si on est des participants potentiels intéressés, est-ce qu'il y a sur quel site web on peut aller chercher plus d'informations sur Guidino et peut-être mentionner notre intérêt?
Sur Guidino, vous pouvez aller actuellement sur Google, par exemple, taper Guidino, Medeo Group, vous allez facilement trouver les références. Vous avez une vidéo aussi qui explique bien, qui démontre bien la solution. Aussi, je laisse mes coordonnées, donc vous pouvez m'écrire en tout temps à tommy@canadialogue.com, tommy@canadialogue.com et au téléphone 514-586-1221.
Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Monsieur Tommy Théberge, directeur des opérations, conseiller en accessibilité chez Canadialogue, merci beaucoup de nous avoir présenté ce GPS Guidino pour se guider dans les endroits publics.
Merci. Beaucoup.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Maxime D. Pomerleau.
Toujours à « Ça vaut le détour », je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou @canal_M sur Twitter. Dans le cadre de la chronique mensuelle de l'AQIS, l'Association du Québec pour l'inclusion sociale, je reçois en studio Mme Sophie Tétrault-Martel, responsable de l'organisation communautaire à Parrainage civique Montréal. C'est un organisme actif depuis 1979, mais dont on ne connaît pas nécessairement les activités. Bonjour Mme Tétrault-Martel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça nous fait plaisir. Tout d'abord, présentez-nous votre organisme. Quelle est votre mission?
Donc, c'est ça, depuis 1979, l'organisme Parrainage civique Montréal, comme eux, travaille avec les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et les accompagne dans leur participation sociale et leur intégration sociale. Et notre mission, en fin de compte, se facilite par l'implication de personnes bénévoles. Donc, on fait un jumelage entre les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et les parrains et marraines au niveau du jumelage.
Donc, c'est ça, ce parrainage civique. On fait appel à des marraines, à des parrains. Est-ce que ce sont tous des adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou vous avez différents groupes d'âge?
Non, c'est vraiment des adultes, donc des personnes de 16 ans et plus qui peuvent faire une demande de service à notre organisme. Et c'est ça, donc après, on fait un jumelage avec une personne bénévole, donc qui sont les parrains et marraines. Et les personnes, justement, comme ils sont dans un jumelage, ils sont nommés dans notre organisme les personnes filleules.
Les personnes filleules, ça ramène ce lien familial qu'on souhaite un peu reproduire.
Exactement. Donc, le lien qu'on veut créer entre le jumelage, c'est vraiment un lien d'amitié. Donc, c'est vraiment, par après, c'est des activités à l'extérieur de notre organisme que les personnes font. Donc, ça peut être autant des sorties au cinéma, ça peut être des sorties selon les intérêts de chacun et chacune, parce que justement, notre jumelage, notre but, c'est de faire un bon match, si on veut, et de faire en sorte que chacun et chacune puisse apporter quelque chose à l'autre.
Combien de gens vous regroupez dans votre organisme?
En fait, en ce moment, on a plus de 90 jumelages. Donc, ça va en augmentant. On a aussi des personnes filleules qui sont sur une liste d'attente, donc en attendant d'avoir un parrain ou une marraine. Donc, on est toujours en recherche des personnes bénévoles qui voudraient s'impliquer à notre organisme aussi.
Justement, les parrains et les marraines sont bénévoles. Quel est leur rôle exactement? Quels outils vous leur donnez lorsqu'ils viennent à vous?
Donc, en fin de compte, les personnes bénévoles, ils peuvent faire application directement sur notre site Internet. Donc, on a un passé à l'action, donc parrainagemontréal.org. Donc, les personnes peuvent directement faire la demande s'ils veulent être bénévoles sur notre site web. Par après, on les accompagne, on les passe justement en entrevue, on essaye de voir c'est quoi leur intérêt pour faire un bon jumelage. Par après, justement, on fait un suivi des jumelages, donc s'assurer que chaque personne qui est impliquée dans le jumelage se sentent à l'aise et tout ça. On leur donne des outils, c'est sûr. On a une intervenante qui les suit dans leur jumelage et s'ils ont des questions, des interrogations au niveau du jumelage. Et par après, ils peuvent nous référer aussi.
Justement, on parle de suivi avec les jumelages. Est-ce qu'il y a une période d'essai pour voir si ce duo va bien fonctionner ensemble?
Oui, en effet, il y a une première rencontre qui se fait à nos bureaux avec la personne filleule et leur parrain ou marraine. Donc, et par après, il y a une période d'essai de 3 mois. Donc, c'est ça, on vérifie que tout le monde est à l'aise et par après, il y a une officialisation du jumelage et il y a un suivi qui se fait par après et tout ça. Donc.
Et je me questionne, les gens qui, si on parle des bénévoles qui viennent s'impliquer au sein de Parrainage civique Montréal, restent là combien de temps? Est-ce que c'est sur le long terme qu'on veut s'impliquer? Est-ce que c'est ce que vous favorisez?
Bien, en fait, on demande une implication pour les personnes bénévoles d'environ 5 heures par mois, donc le temps de faire au moins une activité. Puis c'est sûr que c'est en apprenant à se connaître, justement, qu'on crée ce lien d'amitié-là. Et on demande une implication d'un an, donc justement pour minimum un an, donc pour voir justement la création du lien. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on a des jumelages que ça peut faire 5, 10, 15, 20 ans qui sont ensemble, puis on voit vraiment l'impact que ça a sur la personne qui vit avec une déficience intellectuelle et aussi sur les personnes bénévoles, parce que finalement, c'est du donnant-donnant, donc on crée vraiment ce lien-là à ce niveau-là.
Justement, qu'est-ce que vous voyez comme impact chez les gens? Je vais parler des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ça brise l'isolement, ça amène à peut-être aller dans des endroits où on ne serait pas allé tout seul, peut-être. Qu'est-ce que vous voyez comme changement chez les gens?
Bien, c'est sûr que, justement, de briser l'isolement que souvent des personnes peuvent vivre chez eux, c'est sûr que c'est un des principaux moteurs qu'on voit concrètement sur le terrain. Mais on voit aussi, tant au niveau des habiletés sociales aussi, qui se développent vraiment au contact, justement, d'une personne bénévole, mais aussi l'impact positif que ça a autant sur les personnes bénévoles que les personnes filleules de notre organisme. Donc, j'ai appris telle chose. Finalement... je pensais apporter quelque chose à une personne, mais finalement, j'ai tellement plus appris au contact, justement, de la personne filleule de notre organisme. Donc, on voit vraiment un impact positif du donnant-donnant, en fin de compte.
Tout à fait. Il y a aussi d'autres volets du service aux membres dont j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler.
Oui, donc en fait, justement, comme notre mission se situe au niveau de la participation sociale, l'inclusion sociale, on a un volet d'habilité sociale pour les personnes membres, donc les personnes filleules. Donc, on a des activités, par exemple, Saveur du monde, où c'est une activité où on découvre les différentes cultures. On va à l'extérieur et les différentes cultures de Montréal. Donc, il y a différentes activités à ce niveau-là. Il y a des activités vivre en santé qui est au plus au niveau des habiletés sociales. Il y a des activités aussi de discussion, donc où les personnes filleules peuvent parler justement des enjeux qui les préoccupent, des réalisations aussi qu'elles ont vécues par rapport à elles-mêmes aussi et dans la communauté. On a un comité des personnes filleules qui, à chaque année, organise des portes ouvertes pour notre organisme. Et c'est l'implication, en fin de compte, des personnes filleules à l'intérieur de notre organisme qui rend notre organisme vivant aussi. Donc, c'est nos membres, en fin de compte, qui rendent notre organisme vivant. Donc.
Je lisais aussi qu'il y a quelque chose qui s'appelle les super rigolos.
Oui. En fait, c'est une activité qui se fait avec les jumelages. C'est une activité théâtrale où les personnes, justement, c'est ça. Donc, les jumelages font des activités théâtrales et à chaque année, on a un gala où les super rigolos vont performer leur activité théâtrale.
Et pour arriver à produire cette activité théâtrale, est-ce que vous faites appel à des enseignants en théâtre ou à des bénévoles peut-être qui viennent vous aider? Est-ce que vous avez des professionnels qui vous épaulent dans les différentes activités que vous organisez?
Mais c'est sûr qu'on a des intervenantes aussi qui font les différentes activités. Mais c'est ça, donc c'est vraiment un processus de co-création qui se crée à l'intérieur de toutes nos activités, je dirais, et aussi à l'intérieur de notre organisme, parce que l'implication de nos membres est super importante aussi, tant au niveau de notre plan d'action que les différents volets de notre organisme.
On parle de l'importance de l'implication des membres. Comment on fait pour devenir membre?
En fait, c'est vraiment les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle doivent faire une demande de service à notre organisme. Et par après cette demande de service-là, une intervenante les rencontre pour voir leurs besoins et vont être sur une liste d'attente en attendant d'être jumelés avec une personne bénévole. Et les personnes bénévoles peuvent directement venir faire affaire avec nous sur notre site Internet ou nous appeler directement à notre organisme pour... être membre.
Si on fait une demande de service, est-ce qu'on doit être référé par exemple, notre C3S ou ça peut vraiment venir de nous?
Oui, ça peut, en fait, c'est ça, la demande de service peut autant venir de nous. Donc, on peut faire la demande de service, ça peut venir aussi de nos parents. Donc, si on a besoin d'aide au niveau de du remplissage de la demande de service, mais ça peut venir aussi des éducatrices spécialisées. Donc, ça vient de multiples façons à ce niveau-là.
Ça vient de tous les milieux, donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un rendez-vous du médecin pour pouvoir avoir...
Non.
Pour pouvoir soumettre une demande, manifester notre intérêt.
Non, exactement. La demande de service est d'ailleurs disponible sur notre site Internet. Donc, et par après, vous pouvez nous appeler si vous avez des questionnements à ce niveau-là.
Quelles activités, Madame Sophie Tétrault-Martel, quelles activités s'en viennent au courant de l'été et dans les prochains mois?
Dans les prochains mois, c'est ça, on a notre gala à des jumelés qui s'en vient aussi à ce niveau-là. À chaque été aussi, on fait une activité qui s'appelle « Quoi faire à Montréal ». Donc, pour découvrir Montréal ensemble, en groupe, parce qu'on croit fondamentalement aussi à l'intervention de groupe au niveau de l'intégration sociale. On a aussi une activité en lien avec le Forum social mondial, donc pour l'implication aussi de nos membres à l'intérieur du Forum social mondial et d'avoir un espace où ils pourront prendre la parole. Donc, on est l'Association Montréal de déficience intellectuelle, parrainage civique Les Marronniers. On essaie de construire cet espace-là et d'autres organismes aussi et d'autres membres. Mm-hmm. Donc, il y a plein de projets qui s'en viennent prochainement.
Comment on fait pour vous soutenir dans la réalisation de ces projets?
Il y a le soutien, c'est sûr, des personnes bénévoles. Donc, on est en recrutement pour que les personnes filles puissent avoir un parrain ou marraine. Vous pouvez nous soutenir aussi, surtout en devenant bénévole à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça.
Si on a des questions ou on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur parrainagemontréal.org. Merci beaucoup, Sophie Tétrault-Martel. Vous êtes responsable de l'organisation communautaire à Parrainage civique Montréal. Merci de nous avoir parlé de votre organisme et on vous souhaite vraiment un bon succès dans ces jumelages et on peut voir vraiment l'impact positif que ça peut avoir chez tout le monde qui s'implique.
Mais merci beaucoup à vous.
Merci.
Pas le moindre serment, pas le moindre enjeu, que le souffle d'un chuchotement, et j'étais prise au jeu. Tu jouais l'indocile, je me sentais versatile, ce n'était que les balbutiements de ce printemps heureux. Pas le moindre attouchement, pas non plus de vœux pieux, d'un rapprochement si savoureux. C'était si facile d'apprécier ton style. Tu étais mon accoquinement de ce printemps heureux. Thank you. Pas le moindre boniment, ni le moindre aveu, que le triste sentiment d'avoir raté nos adieux. Ce serait inutile de me sentir indécis, ce n'est que le
Ce printemps heureux de Lydia et Sébastien, tiré de leur album Printemps heureux. Printemps qui tarde à laisser sa place à l'été, finalement. On a hâte qu'il arrive ou même, en fait, arriver. Même si la date officielle est le 21 mars, il fait toujours très froid. Et il y a encore de la neige au Québec, donc on attend ce printemps heureux. On termine cette émission de Ça vaut le détour. Comme j'en parlais, en début d'émission, du 6 au 8 avril, a lieu à Montréal le 41e congrès annuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. C'est en fait le plus important congrès en éducation et adaptation scolaire au Québec. Pour nous en parler, on joint au téléphone M. Alain Desrochers, directeur scientifique du congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour, M. Desrochers.
Bonjour, madame. Merci de m'accueillir à votre émission.
Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, le congrès qui débute demain, à qui s'adresse exactement le congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage?
Le congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage s'adresse à toute personne qui a... soit offrir des services à des personnes atteintes d'un trouble d'apprentissage ou des personnes qui sont en contact avec ces personnes, et c'est un congrès qui ratisse très large. Pour vous donner des exemples, tous les ans, ce congrès va accueillir notamment des parents d'enfants qui ont un trouble d'apprentissage, des enseignants, des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychologues scolaires, des conseillers pédagogiques spécialisés en adaptation scolaire, des représentants de direction des services pédagogiques des commissions scolaires, des directeurs d'établissements scolaires. Alors, vous voyez qu'on ratisse relativement large.
Mm-hmm. Le thème de cette édition est « Comprendre et accompagner l'apprenant ». Pouvez-vous nous décrire ce que ça représente? En quoi est-ce qu'il inspire les thèmes qui seront abordés cette année?
En fait, quand on parle de comprendre les apprenants, ce qu'il faut comprendre de ce thème, c'est que les troubles d'apprentissage constituent quelque chose qu'on étudie sur le long terme, parce que les troubles d'apprentissage sont parfois complexes. Chez un élève, par exemple, imaginez un élève qui à l'école, qui éprouve des difficultés à apprendre à lire ou à écrire. On pourra, par exemple, détecter chez cet élève une dyslexie. Mais parfois, cet élève pourrait aussi avoir à affronter l'hyperactivité mm-hmm. ou d'autres problèmes, ce qui complique énormément l'évaluation des besoins, des difficultés réelles de cet élève et de ses besoins. Alors, et c'est ce qu'on entend par comprendre. C'est pas toujours facile de comprendre la situation de ces élèves, et une des fonctions du congrès, c'est justement de réunir des experts, des spécialistes qui nous aident collectivement à mieux comprendre les besoins de ces élèves.
Justement, pour arriver avec une approche globale du problème, parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui mènent à justement des troubles d'apprentissage chez les jeunes. Et on parle aussi d'enfants. Je sais qu'il y a une conférence qui va être abordée qui parle même de la petite enfance. Donc, on va vraiment sur plusieurs plans de l'apprentissage.
Ah oui, parce que quand on aborde la question de la petite enfance, l'intention souvent, c'est de voir comment on peut dépister d'avance des enfants qui vont devoir affronter un trouble d'apprentissage. Et lorsqu'on peut les identifier tôt, ça nous donne l'occasion de mettre en œuvre des interventions préventives et vraiment de leur rendre la vie plus facile lors de l'entrée à l'école.
Et quels sont les types de sujets qui seront abordés durant ces 3 jours?
En fait, Le congrès va aborder une grande variété de sujets qui gravitent autour des troubles d'apprentissage. Au centre de la thématique, il y a bien sûr la nature, la diversité des troubles d'apprentissage, mais autour de ça, il y a par exemple toute la question comment on s'y prend pour évaluer correctement, précisément, la nature d'un trouble d'apprentissage chez un enfant ou chez un adulte, parce que ces enfants qui sont atteints d'un trouble d'apprentissage, un jour vont devenir des adultes. Et par définition, un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Ce n'est pas une difficulté temporaire. Donc, un jour, ces enfants vont devenir des adultes qui vont s'insérer dans le marché du travail, mais toujours avec ce trouble d'apprentissage. On a aussi plusieurs, dans la programmation, plusieurs des conférences portent sur les mesures d'aide, les interventions spécifiques au trouble d'apprentissage. On s'intéresse aussi également au dépistage précoce des enfants à risque de présenter des difficultés sévères d'apprentissage. Certaines conférences abordent la question des interventions préventives, ce qu'on peut faire pour amoindrir les conséquences d'un trouble d'apprentissage. Et il y a aussi une proportion importante des conférences qui portent sur les conséquences d'un trouble d'apprentissage, sur l'individu, sur la façon dont l'individu se perçoit, également sur la famille, parce que quand dans une famille, un enfant présente un trouble d'apprentissage, ça change la dynamique dans la famille. Vous vous trouvez avec un enfant qui a besoin parfois de plus d'attention et la dynamique familiale se trouve à changer. Également, l'école. Quand l'école accueille des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, il faut prévoir des services, il faut prévoir des personnes qui ont une expertise qui leur permettent de travailler avec ces enfants. Ça peut être des orthopédagogues, des orthophonistes, les psychologues scolaires. Donc, il faut toute une armée de spécialistes pour pouvoir s'assurer que ces enfants, comme les autres, peuvent réaliser leur potentiel dans la vie.
Monsieur Desrochers, parmi vos invités, vous avez aussi une représentante de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les droits de la personne sont un sujet qui sera abordé durant le congrès. Pourquoi? Quelle dimension ce sujet-là peut amener au congrès?
Il se trouve que les troubles d'apprentissage, comme d'autres caractéristiques individuelles, peuvent, dans certaines circonstances, constituer des facteurs d'exclusion sociale. Et là, vous voyez tout de suite venir la question des droits de la personne. Ces personnes qui sont atteintes d'un trouble d'apprentissage doivent trouver leur place dans la société. Ils ont des droits, ils ont droit à des services. Alors, c'est toute cette question assez vaste qui est traitée là, sous le thème des droits de la personne.
Mm-hmm. Donc, c'est aussi pour outiller ou pour apprendre tout simplement, si on est un parent, que notre enfant a droit à un plan d'intervention dans une école, qu'on peut mettre en place justement les structures nécessaires pour s'assurer que le droit à la scolarité soit effectivement bien rempli chez tout le monde.
Tout à fait. Dans la loi sur l'instruction publique, il y a des clauses particulières pour des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage sévères. Et les spécialistes de la partie juridique de tout ça viennent nous éclairer sur ce à quoi les enfants ont droit, ce à quoi les parents ont droit. Et c'est très utile pour les parents d'avoir ces informations.
Mm-hmm. Du côté du Salon des exposants, quels sont les organismes ou les services qui seront représentés?
Alors, le Salon des exposants au Congrès, c'est imaginer un grand hôtel avec un étage qui s'étend comme un terrain de football. Ça ressemble à ça, le Salon des exposants au Congrès. C'est plusieurs exposants, plusieurs dizaines d'exposants qui viennent proposer soit des services, mais souvent du matériel pour aider les élèves qui peuvent présenter des difficultés en lecture, en orthographe, en mathématiques. Également des exposants qui nous proposent des ouvrages sur le comportement social. Vous savez, c'est difficile pour un enfant à être atteint d'un trouble d'apprentissage et parfois, ces enfants vivent de grandes frustrations qui affectent leur comportement, leur facilité à entrer en relation avec les autres. Alors, les exposants nous offrent également des ouvrages qui nous éclairent sur comment aider des enfants sur le plan social. Alors, le salon des exposants, comme je vous le disais, c'est véritablement énorme au congrès. Et la variété des ouvrages proposés est vraiment considérable.
Mm-hmm. Vous présenterez aussi en exclusivité le NeuroLab, qui est selon votre programme un labo nouveau genre. De quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, le NeuroLab, c'est véritablement quelque chose de fascinant parce que pendant très longtemps, on s'est dit que on venait au monde avec un cerveau qui se développait et qu'on était un petit peu, que la biologie était un peu largement déterminante de nos attitudes à l'apprentissage. Ce qu'on découvre, c'est que quand, par exemple, on se met à travailler avec un enfant qui présente un trouble d'apprentissage et qu'on le fait cheminer par des exercices, des activités d'apprentissage, quand on examine le fonctionnement cérébral chez cet enfant, on s'aperçoit que l'intervention que l'on fait auprès de cet élève affecte le fonctionnement de son cerveau.
Mm-hmm.
Et on s'est rendu compte que le cerveau avait une plasticité, une capacité à répondre aux interventions ciblées. Et c'est ça qu'on s'est mis à étudier récemment pour s'apercevoir que la génétique ne détermine pas tout à 100%. Que la génétique est en interaction avec l'environnement. Et c'est notamment ça qu'on étudie au NeuroLab, comment les activités que l'on fait faire peuvent affecter le fonctionnement cérébral.
C'est vraiment très intéressant. On a hâte de voir qu'est-ce qui peut ressortir de ce laboratoire, finalement, de ces rencontres de professionnels dans le cadre du NeuroLab. Le congrès commence demain, le 6 avril. Est-ce qu'il reste des places? Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire?
Ah non, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. En fait, c'est très facile. On n'a qu'à se rendre au site web de l'Institut et sur la page d'ouverture, on va trouver un hyperlien qui nous permet de s'inscrire au congrès. Et de faire des choix d'ateliers, de conférences sur les thèmes qui peuvent intéresser la population,
donc,
les spécialistes, ah, oui, tout à fait.
Et c'est ouvert au public général aussi?
C'est ouvert au public général, oui, parce que à l'origine, cette organisation, ce qu'il faut savoir, c'est que cette organisation qui tient actuellement son 41e congrès a d'abord été fondée par des parents. Ce sont des parents qui ont voulu réunir des experts pour les aider à mieux comprendre leur enfant qui pouvait présenter un trouble d'apprentissage. Donc, l'organisation est restée pendant toutes ces années relativement proche des parents.
Mm-hmm. C'est 5 conférences, 2 symposiums bilingues, plus de 145 conférenciers qui proviennent du Québec, du Canada, de l'international, on pense à l'Europe, mais aussi aux États-Unis, qui seront présents à ce congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci beaucoup, Alain Desrochers, vous êtes directeur scientifique du congrès. Merci d'avoir pris quelques minutes de nous parler aujourd'hui de ce congrès qui se tiendra à Montréal du 6 au 8 avril.
Merci de votre accueil et bonne journée à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre émission « Ça vaut le détour » aujourd'hui. Je remercie mes invités, Alain Desrochers, directeur scientifique, Sophie Tétrault-Martel, Tommy Théberge de Canadialogue. On avait commencé l'émission avec Émilie Bouchard-Labonté, rédactrice chez Sportcom. Je remercie mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour « Ça vaut le détour ». À bientôt.